Shalom, bonjour à tout le monde. Quel plaisir de se retrouver. La semaine dernière, nous avons fait un grand tour d'horizon sur les évolutions de la société israélienne depuis ses origines, aussi bien historiques que métahistoriques. Et nous sommes rentrés après de plein pied dans l'actualité. Et là, je voudrais peut-être approfondir sur la base plutôt de sources. Ça sera plutôt, alors que la semaine dernière, c'était plutôt une revue des faits. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu dans les textes. Et, en effet, la situation que nous vivons aujourd'hui en Israël et dans le peuple juif dans son ensemble est extrêmement complexe parce qu'elle fait intervenir de nombreux éléments qui tous ont des résonances bibliques, mais chacune de ces résonances relève d'un autre registre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut toujours se demander, mais nous savons que la Torah et les prophètes ont parlé des événements de l'histoire, mais on a toujours des difficultés à faire des correspondances. Il est souvent d'ailleurs tentant de faire un peu de prophétisme de pacotille, c'est-à-dire de dire voilà, ça c'est écrit là, dans tel verset, il y a tel fait ou tel nom ou tel lieu qui sont déjà mentionnés dans les versets, et alors ça devient un peu de la magie. Alors il faut faire attention parce qu'effectivement, parfois nous rentrons dans des comparaisons de ce genre, mais il faut toujours garder à l'esprit la nature, disons, idéal de ces correspondances. C'est pas simplement pour dire voilà, c'était écrit déjà. C'est pour que on en ait quelque chose à retirer. Alors évidemment, la première résonance que l'on peut ressentir par rapport à ces événements, c'est ce que les prophètes appellent, en tout cas le prophète Ézéchiel, la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est Les prophètes ont compris, ils l'ont entendu, que l'achèvement de l'histoire se passe par une sorte d'affrontement d'ordre universel avec le peuple d'Israël revenu sur sa terre. Et c'est là que le Maharal de Prague, d'ailleurs, dans le Netzach Israël, en parle très longuement. Il explique en fait la guerre de Gog et Magog est la conséquence directe de l'antisémitisme on va dire ontologique qui est suscité par l'apparition d'Israël dans l'histoire. Alors, sans donner, disons, de l'eau au moulin des antisémites, il faut bien se dire que la notion même d'Israël par rapport aux nations est une notion quelque peu agressive. C'est-à-dire, si vous entrez dans une pièce dans laquelle vous rentrez dans une salle dans laquelle il y a une centaine de personnes qui discutent entre elles. Et puis, vous entrez et vous dites, vous et moi. Ces mots-là, déjà, vont créer une tension. Ce que vous allez créer, c'est soit de l'opposition, soit de l'adhésion, mais il n'y aura pas d'indifférence. Or, le fait d'Israël dans l'histoire est un fait extrêmement particulier puisqu'il ne correspond à aucun des schémas, en tout cas pas de manière complète, avec aucun des schémas de collectivité que nous connaissons dans l'histoire, ni des collectivités religieuses, ni nationales, ni associatives. Le peuple d'Israël est un cas à part. Toute personne qui a pu étudier l'histoire d'Israël s'en rend compte, surtout si c'est de l'histoire comparée. Et donc, il y a une sorte de malaise universel par rapport à l'apparition de cet élément que le Maharal de Prague appelle le nifdal, l'élément séparé. Et finalement, la réconciliation, si vous voulez, entre la transcendance d'Israël et le monde de la nature qui est celui des nations, cette réconciliation passe tout d'abord par un conflit. Et ce conflit, c'est effectivement ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire cette confrontation dans laquelle les nations sont jugées par rapport à leur relation envers le peuple d'Israël. Une analyse de manière toute intéressante sur les premières pages du traité Avodah Zarah, qui explique en fait le jugement de l'histoire Le jugement des collectivités humaines, des nations, sera la manière dont la relation qu'ils ont eue envers le peuple d'Israël et la révélation qu'il contient. Et donc, quand on parle de la guerre de Gog et Magog, effectivement, on voit que il y a dans cet affrontement d'ordre militaire et diplomatique, il y a également une remise en question de la légitimité morale d'Israël. Et cette remise en question vient au nom de beaucoup de motivations, aussi bien au niveau la source de l'humanisme, mais également l'islam, étant d'autres facteurs qui engendrent cette animosité des nations envers Israël. Et là, c'est là qu'il faut voir qui a raison et qui a tort. Je tiens à rappeler ici une petite phrase très intéressante du professeur Emmanuel Levinas, à qui on avait demandé, mais l'autre, vous parlez tout le temps de connaître l'autre, de voir le visage de l'autre. Est-ce que l'autre, c'est le Palestinien? Réponse de Lévinas, il y a également celui qui a tort et celui qui a raison. Et ça, c'est ce qui est en train de se vérifier, qui a tort et qui a raison. On ne peut pas ne pas être frappé d'abord par les réactions extrêmement hypocrites de la communauté internationale, qui parfois justifie même les barbaries du Hamas, ou en tout cas ne veut pas en parler. Cachez-moi ces massacres que je ne saurais voir. Mais en tout cas, on se rend compte depuis d'ailleurs la semaine dernière, on le savait déjà, mais il y a un renforcement maintenant de l'opposition de l'Iran. Et nous sommes en conflit ouvert, pas simplement avec l'islam, mais avec une grande puissance islamique qui veut en finir avec Israël, qui envisage l'utilisation de la bombe atomique, il s'agit de l'Iran. Or, dans le Netzach Israël du Maharal de Prague, il est question effectivement de ce qu'on appelle les Arba Malchouyot, les quatre empires qu'Israël doit traverser à travers l'histoire, qui sont Babylone, la Perse, les Grecs et les Romains. Et les Romains devenus par la suite l'Occident. Question du Maharal. Et alors, qu'en est-il d'Ismaël? C'est-à-dire, l'islam, quand même, est une grande puissance. Le Maharal le connaissait, il le savait. Et il dit alors, où est Ismaël dans le cadre des quatre empires? Et une des réponses qu'il donne, il en donne deux, mais là, je vais en citer seulement une. Il dit, c'est la Perse. Ismaël, en fait, se retrouve à travers la Perse dans l'histoire. Donc notre conflit aujourd'hui envers l'islam est mené effectivement par les héritiers de la Perse, l'Iran actuel, et on ne peut pas ne pas, disons, ne pas être attentif à ce que disent les textes à ce propos. Et là, je voudrais vous citer quelques petits versets du prophète Ézéchiel concernant la guerre de Gog et Magog. Pour faire plus vite, je vous amène le texte de la Bible traduite en français, même si je n'aime pas tellement cette traduction. La parole de, c'est au chapitre 38 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ah, rappelons aussi un autre point qui ne peut pas ne pas être relevé. Il y a une attaque de l'Iran contre la communauté internationale dans les détroits de Bab-el-Mandeb. Le détroit de Bab-el-Mandeb, c'est la porte entre la mer Rouge et l'océan Indien. Le trafic international du commerce est entravé par un petit groupe de rebelles au Yémen qui sont alimentés militairement et économiquement par l'Iran. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Américains s'en mêlent, qu'ils ont envoyé des porte-avions dans cette région, justement parce que la voie de Bab-el-Mandeb est considérée comme une voie de trafic international très importante et qui, à cause de son occlusion, oblige les bateaux à ne plus passer par le détroit de Suez, par le canal de Suez, mais de faire le tour de l'Afrique. Ce qui fait que les marchandises prennent un mois de plus à être livrées d'Extrême-Orient en Méditerranée. Et cela préoccupe les grandes puissances. Pourquoi est-ce que je signale tout ça? Parce que je voudrais vous lire quelques petits versets du prophète Ézéchiel au chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, dirige ta face vers Gog, au pays de Magog, prince suzerain de Mécher et Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Méchec et de Toubal. Je vais t'entraîner, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement en foule énorme, avec rondages et boucliers, tous armés de glaives. Alors, qui est ce Gog? Qui est ce Magog? Alors, on voit dans le texte qu'il s'agit des pays du Nord. Effectivement, on voit qu'il y a une grande puissance, la Russie actuelle, qui contient une multitude de peuples et qui alimente le conflit. Disons en sourdine, mais tout le monde le sait qu'en fait, il y a une sorte d'alliance entre la Russie, la Chine, l'Iran et finalement les Houthis au Yémen et ça arrive à la bande de Gaza. C'est-à-dire, c'est ça, disons, l'image géopolitique générale. Ce qui est surprenant, c'est la suite. La Perse, l'Éthiopie et Pout seront avec eux. Qui c'est Pout? Eh bien, d'après la plupart des commentateurs, ceux qui connaissent l'archéologie en tout cas, Pout, c'est le pays de Punt, qui est justement au détroit de Bab-el-Mandeb. C'est ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, cette partie de l'Afrique qui est face au Yémen et qui fait face donc au détroit de Bab-el-Mandeb. Comme par hasard, le prophète Ézéchiel, qui ne connaissait probablement pas le lieu de Bab-el-Mandeb, nous dit la Perse, l'Afrique et Pout vont travailler ensemble. Après, vous avez la suite. Gomer, Vechol Agapea, Betogarma, Yarkedet, Safon, Il s'agit donc de tous les pays du Nord, la Turquie, les pays du Caucase. Et là, le prophète continue en disant, après de longs jours, tu seras mandé. À l'expiration de nombreuses années, tu envahiras un pays affranchi du glaive, recueilli d'entre des peuples nombreux, les montagnes d'Israël qui étaient sans cesse en ruine. Oui, il a été retiré des nations, et tous ils habitent en pleine sécurité. Tu monteras, tu viendras comme l'ouragan. Tu seras comme la nuée pour couvrir la terre, toi et toutes tes légions et des peuples nombreux avec toi. Alors, est-ce que ça veut dire que nous savons avec certitude que ce sont les événements que nous vivons qui sont indiqués par les prophètes? Alors, toujours, il est important de comprendre qu'il s'agit, en fait, de potentialité. C'est-à-dire, ce que les prophètes ont dit, eux-mêmes ne savaient pas la manière dont leur prophétie serait accomplie. Mais il nous donne, si vous voulez, des clés de l'histoire, et nous avons ici un cas donc de potentialité de réalisation des prophéties sur Gog et Magog. Il y a un deuxième élément qui est lié aux événements que nous vivons actuellement, c'est la dimension Amalek. Effectivement, nous en avons parlé déjà la dernière fois. La nature du conflit avec Gaza et ressemble de manière assez surprenante et ahurissante d'ailleurs avec ce que la tradition nous dit d'Amalek. Cependant, il est trop facile de faire un raccourci et de dire oui, c'est Amalek. L'argument d'Amalek contre Israël ne ressemble pas a priori à l'argumentation palestinienne. Si déjà nous parlons d'Amalek, eh bien Amalek c'est l'opposant absolu à Israël. On pourrait dire que l'idéologie nazie, elle, effectivement, correspond mieux, de manière, disons, cadre mieux avec ce qu'on appelle l'amalékisme, tandis que le conflit avec les Palestiniens tourne autour de la terre d'Israël. Est-ce que nous vivons aujourd'hui, et donc l'argument, c'est vous avez volé nos terres. C'est absolument incroyable, d'ailleurs, de voir que c'est le voleur qui prétend être volé. Donc, c'est-à-dire, les envahisseurs prétendent que cette terre est la leur, mais D'un autre côté, on voit que le comportement de nos ennemis est un comportement de type amalécite, et ça demande une certaine clarification. À nouveau, nous sommes fort tentés de trouver la source biblique de cette dimension Amalek dans la Torah. Et là, je voudrais vous citer un passage du livre de Bamidbar, comme c'est dans les sections sabbatiques du Shabbat, donc tout le monde le connaît, je vais le lire quand même. C'est dans le chapitre Kaf Aleph, 21 de Bamidbar. Vayishma Hakenaani Melech Arad, Yoshev Hanegev. Et alors le Cananéen, roi d'Arad, installé dans le sud, a entendu Kiba Yisrael Derech Ha'atarim, qu'Israël venait par le chemin. Vayillachem be'Israël, il fit la guerre à Israël, vayishbe mimenu shevi, et il en prit des otages. C'est là le cas où la Torah nous parle d'une guerre contre nos ennemis et que les ennemis prennent des otages. Alors là, je voudrais remettre en question un terme halakhique qui a été utilisé ces derniers temps. Vous savez qu'il y a tout un... Bon, Israël fait des efforts très importants pour libérer les otages. Il y a eu même d'ailleurs une partie des otages qui ont été libérés dans le cadre de négociations. Il y a également une campagne publique qui veut pousser le gouvernement israélien à cesser les hostilités pour permettre la libération totale de tous les États, de tous les otages, et également, même si c'est le prix, de libérer tous les terroristes qui sont dans les prisons israéliennes, ce qui ne peut emmener que de nouvelles catastrophes. Et le terme qui a été employé pour justifier cette action, qui est dangereuse au niveau militaire, c'est que il y a la plus grande des mitzvot, dit le Talmud, c'est le rachat des otages, pidyon shvuyim. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui est en captivité, un juif qui est en captivité, alors la communauté doit faire tous ses efforts pour libérer la personne en captivité. C'est ce qu'on appelle en hébreu pidyon shvuyim, le rachat de ceux qui sont en captivité. Où est l'erreur? L'erreur, c'est que ce terme de pidyon shvuyim est valable pour le temps de l'exil, dans le temps de la galoute. C'est-à-dire, si dans une situation dans laquelle le peuple juif, dispersé, exilé, éparpillé, sans armée, sans force militaire, découvre qu'il y a un de ses membres qui est en captivité. Alors évidemment, il faut réunir l'argent, faire des pressions, faire tout le nécessaire pour convaincre les geôliers de nous rendre ce juif qui a été emprisonné. C'est ça le pidyon shvuyim. C'est une situation de galoute, d'exil par excellence. Par contre, dans le cas où nous revenons sur notre terre, nous avons notre indépendance, il n'y a pas de pidyon shvuyim, il y a shirur shvuyim, il y a la libération des captifs. Or, comment se fait cette libération des captifs? Alors, regardons à nouveau le texte de la Torah dans Bamidbar. Donc, le Cananéen en question, Vayishbemenu Shevi, a pris des captifs. D'après le Talmud, il s'agit d'une captive, une servante qui a été prise en captivité. Et là, Vayidar Israël Neder Lachem Vayomar. Et alors Israël fit un vœu pour Dieu en ces termes. Imnaton titen et ha'amazé beyadi, si tu livres ce peuple dans ma main, ve'aharamti et areem, je détruirai leur ville. C'est-à-dire, on ne va pas entreprendre des négociations pour libérer la captive. On va leur faire la guerre et détruire leur ville. Vaishma Hashem bekol Israël, et Dieu entendit la voix d'Israël. Vaiten et Akenaani, et il lui livra le Cananéen. Vayaharem et Hem vet Areem, il détruisit eux et leur ville, Vaïkra Shema Makom Chorma, et on appela ce lieu la ruine. Et là se pose la question de la prière des enfants d'Israël. Ils disent, si tu nous donnes ce peuple dans nos mains. Or, quand on fait la prière, c'est une instruction bien connue, il faut faire le détail de ce que l'on demande. Si le peuple en question, c'était des Cananéens, pourquoi dans leur prière, les enfants d'Israël n'ont-ils pas dit, livre-nous le Cananéen? Pourquoi ont-ils dit simplement ce peuple? Et alors, Rashi amène ici des Midrashim qui nous disent la chose suivante. Les Cananéens n'étaient pas des Cananéens. C'était Amalek. Zé Amalek, nous dit Rashi, Veshina et leshono le daber bilshon Kenaan. Mais il a changé sa langue pour parler comme les Cananéens. Kedeshéyu Israël mitpalelim la kadosh baruchu la tête Kenaanim beadam vemenam Kenaanim. Afin que les enfants d'Israël prient pour que Dieu leur livre les Cananéens, mais eux ne sont pas des Cananéens. C'est-à-dire que la prière d'Israël ne sera pas efficace puisqu'elle sera, elle concernera un autre peuple que celui qui les attaque. Raou Israël levushem qu'il vouchait Amalekim ulshonam lishon Kenaan. Et les enfants d'Israël ont vu que leurs ennemis étaient habillés comme des Amalécites et parlaient comme des Cananéens. Amrou nitpalel stam. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous allons prier de façon indifférenciée. Shenehemar, imnaton titen et amazé biadi, ainsi qu'il est dit, si tu livres ce peuple dans mes mains. Qu'est-ce que ce texte de Rashi, au nom du Midrash, vient nous enseigner? Que parfois, Amalek prend le discours de Canaan. C'est-à-dire, l'intention véritable de l'ennemi est une intention amalécite, mais son discours sera un discours cananéen. C'est-à-dire, il dira, vous nous avez pris notre territoire, vous avez pris notre pays, nous sommes une nation qui a des droits sur cette terre, comme autant au moins, même plus que les enfants d'Israël. Mais en vérité, il ne faut pas se tromper sur leur intention. Leur intention est une intention amalékite qui est la destruction totale du peuple d'Israël. Et donc cet élément-là, ce deuxième élément, à part l'élément donc Gog et Magogien que nous pouvons discerner dans ces événements, il y a également l'élément Amalekite qui nous invite justement à comprendre la différence de comportement qu'il doit y avoir entre le temps de la galoute dans lequel on faisait ce qu'on appelait le pidyon shevouim, le rachat des captifs, et notre temps d'indépendance nationale, dans lequel nous faisons la libération par la voie de violence de nos captifs. Il y a un point que nous avons abordé la semaine dernière de manière, disons, assez élargie, mais qui reste vrai, c'est l'héroïsme. On ne peut pas ne pas être frappé par la puissance d'héroïsme de nos soldats, qui, de manière quasi unanime, malgré les pertes, les lourdes pertes des âmes d'Israël, continue à exiger de la classe politique de ne pas cesser l'effort de guerre. Or, nous savons très bien de quoi il s'agit. Cet effort de guerre, ne se limite pas en vérité à la bande de Gaza. Il continue également dans le nord, dans la Galilée. Il n'est pas du tout impossible que la population arabe au sein d'Israël et en Judée, Samarie s'éveille également à des actes de violence, sans parler de la participation active des Houthis au Yémen et probablement également d'une intervention des Iraniens. Il faut tout à fait être conscient de cela. Nous sommes donc aujourd'hui, disons, à un doigt d'un conflit à l'échelle mondiale. Et il est très important de comprendre que dans le cadre de ce conflit, eh bien, c'est Israël qui se trouve au centre de l'événement. Or, ce peuple d'Israël porte avec lui un message. Ce message, je vois qu'il est mentionné dans un livre que probablement une grande partie de nos auditeurs connaissent, ou peut-être tous connaissent. C'est le livre Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei Rabbi Eliezer est un ancien midrash dont il est difficile de donner la datation, mais qui est considéré comme un des midrashim les plus importants, aussi bien par Rashi que par Maïmonide. Donc c'est certainement une œuvre fondamentale. Il a probablement été rédigé, en tout cas pour une partie de son texte, lorsque l'islam est apparu dans l'histoire. Effectivement, vous avez là-bas des passages qui parlent de l'implantation des fils d'Ishmaël en Eretz Israël et tant d'autres choses. Et il y a une analyse d'un verset de la prophétie du prophète Bilham, Bilham ou Balaam, comme on dit en français, le prophète des nations, quand il finit ses grandes prophéties qui bénissent Israël contre son gré, parle finalement des événements de la fin de l'histoire. Et à un moment, le prophète est pris de terreur, il dit « Oy mi yichye misumo el ». Malheur, qui pourra vivre lorsque ces choses se réaliseront? Alors c'est quoi ces choses qui se réaliseront? Misumo el. Alors le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, lit le mot misumo en le ponctuant différemment de ce qu'il est écrit dans la Torah, comme s'il est écrit mishemo. C'est les mêmes lettres. Mishemo el, celui dont le nom comporte el, Dieu. Et là, le Midrash nous dit, étant donné que Dieu a lié son nom à Israël, puisque dans le nom d'Israël, il y a el, et qu'il a lié son nom à Yishma el. Effectivement, dans Ishmaël aussi, vous avez le mot El. Mi yichye kesheyakum Ishmaël à l'Israël, qui pourra vivre lorsqu'Ishmaël se lèvera contre Israël? C'est-à-dire, un des événements importants de la fin de l'histoire, c'est le conflit Israël-Ishmaël. Et là, c'est effectivement une surprise pour la tradition biblique, parce que pour nos ancêtres, les Hébreux, il était très facile de comprendre la nature du conflit avec les nations idolâtres. Les idolâtres sont des idolâtres, ce sont des païens, ils servent des dieux mensongers, des dieux étrangers, tandis que nous, nous venons au nom du Créateur du monde. Et donc, le déséquilibre, l'asymétrie entre Israël et les idolâtres est une évidence. Cela ne pose pas de problème. Mais que se passe-t-il quand le conflit est entre deux entités monothéistes? C'est au nom de Allah, le Dieu unique, que nos ennemis nous font la guerre. Et nous nous venons au nom d'Hachem, Yud-Ké-Vav-Ké, celui dont nous disons Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem qui est notre Dieu et pas celui des nations sera un jour le Dieu de toutes les nations. Il y a donc un affrontement entre deux conceptions du monothéisme. Et c'est là que se situe le conflit spirituel de la fin de l'histoire. Alors, comment comprendre ça? C'est là que il est très important de comprendre ce que veut dire le terme Allahu Akbar. Dieu est plus grand. C'est le plus grand de tous. Il est plus grand que qui? Eh bien, il est plus grand que celui qui a dit tu ne tueras point. Celui qui l'a dit au Sinaï. C'est-à-dire, il y a dans la conception de l'unité divine dans l'islam quelque chose d'extrêmement agressif. Quand on dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Wallah illallah, cela veut dire c'est quelque chose, disons, de conflictuel. Il ne faut surtout pas lever la tête devant Dieu. Il faut se soumettre. C'est ce que signifie le terme islam. C'est également ce que veut dire le terme Ishmaël. C'est-à-dire, il se plie à la volonté, il entend l'ordre du Créateur, il se soumet à sa volonté. C'est-à-dire, il y a ici une sorte d'opposition entre le Dieu unique et toute la création. C'est-à-dire, s'il y a un Dieu, il n'y en a qu'un seul qui est Dieu. Et donc, on pourrait dire, c'est une unité de caractère exclusif. C'est-à-dire, tout est exclu de la divinité. Il n'y a que Dieu qui est Dieu, et donc il faut s'y soumettre. Vous comprenez donc, disons, la résonance de violence qui se cache derrière ce monothéisme. Par contre, quand nous disons Hachem Echad, Dieu est un, cela veut dire qu'il donne vie à tout. C'est le principe Ve'ata mehayeh et kulam. C'est toi qui vivifies tous les êtres. Et donc, si Dieu vivifie tous les êtres, cela veut dire que tous les êtres ont un sens. Ça ne veut pas dire que il faut accepter l'état actuel. Il y a des choses à réparer, évidemment. Mais finalement, disons, l'amour divin englobe l'ensemble des êtres. Qu'est-ce qui se passe là avec le whiteboard? Il y a eu un problème. Bon, ça veut dire que l'amour divin englobe l'ensemble des êtres. C'est ça qu'on entend par Hachem Echad. C'est une unité, un monothéisme inclusif. On pourrait résumer ça à ça, un monothéisme qui exclut et un monothéisme qui inclut. Eh bien, c'est précisément ça que ça veut dire. Parce que quand le monothéisme est un monothéisme qui exclut, ça devient une religion mortifère, qui va magnifier la mort, qui va magnifier l'opposition à l'autre. Et disons, c'est pour ça qu'il y a donc incapacité de reconnaître la légitimité de l'autre. Alors évidemment, est-ce que ça va rester comme ça pour l'éternité? Non, le conflit actuel est en train de vérifier ces choses-là. C'est-à-dire que nous allons devoir, par voie de la violence peut-être, imposer une réforme au sein même de l'islam. Lorsque l'islam aura compris qu'il doit non seulement se reconnaître comme étant une religion issue du judaïsme, et donc il a une dette envers Sarah, comme Hagar doit reconnaître, la mère d'Ishmaël doit reconnaître sa dette envers Sarah, qui lui a donné le lit d'Abraham. Mais ça veut dire encore beaucoup plus. Ça veut dire que l'islam va devoir apprendre à reconnaître la légitimité de l'identité de l'autre. Et ça, ce n'est pas une chose tout à fait évidente. Vous connaissez quelles ont été les déclarations de la conférence de Khartoum après la guerre des Six Jours, lorsque la Ligue arabe s'est réunie à Khartoum pour déclarer trois déclarations de non, non de la paix à Israël, non de la reconnaissance d'Israël, etc. Des non, c'est-à-dire le refus de l'identité de l'autre et le fondement de l'identité de l'islam. Et c'est ça qu'il va falloir donc réparer, et ça fait partie souvenez, de la vie, des éclaircissements qui sont dans le soubassement de la guerre actuelle. Et là, je voudrais me référer à un événement. Je ne sais pas s'il a été bien diffusé en France ou pas, mais un événement de la guerre que nous vivons actuellement. Je crois que c'était donc la semaine dernière. Un groupe de soldats ont investi une mosquée. Une mosquée à partir de laquelle on lançait des tirs, cette mosquée dans laquelle on enseignait la haine du peuple d'Israël et de son État, évidemment. Et dans le cadre de l'activité militaire, alors quelques soldats sont entrés dans la mosquée et ont pris le haut-parleur du minaret et ont fait entendre, d'ailleurs avec une mélodie orientale de très haut niveau, le Shema Israël et le Hashem Wa Elohim. C'est-à-dire, en remplacement de l'appel du muezzin, ils ont employé donc la stratégie de l'islam, et au lieu de chanter donc la et tout ce que ça implique, ils ont chanté le Shema Israël et le Hashem Wa Elohim plusieurs fois. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre, mais il paraît que c'était très mélodieux et très beau. Alors, ça a fait tout un grabuge dans la scène politique et également dans la scène militaire. Et les soldats en question ont été retirés, momentanément d'ailleurs, ont été retirés du combat et de l'action militaire. Ils ont été, si vous voulez, punis d'avoir profané une mosquée. Alors, il y a eu des réactions de tout genre, des réactions rabbiniques, évidemment, disons, de faiblesse, disant oui, il ne faut pas porter atteinte aux autres cultes, il faut tenir compte de la sensibilité religieuse, même de nos ennemis, et tant d'autres messages lénifiants de ce genre, mais qui, à mon avis, sont tout à fait déplacés. Ce qui aurait dû être fait, il aurait fallu donner une décoration à ces soldats. Non pas parce que nous avons de l'animosité envers l'autre, mais parce que ça aurait exprimé le fait que l'État d'Israël a un message positif à transmettre. Or, ce qui se passe, il y a un grand drame de la société israélienne, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de la, je dirais pas de la propagande, en tout cas de la justification publique du peuple de l'État d'Israël. Il y a dans le au gouvernement. Ah oui, alors vous avez ici Jacques Arnold qui nous dit de manière très précise que les trois noms de Khartoum, c'était pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec Israël. D'accord. Effectivement. Bon, donc je reviens. Merci. Je reviens à cette histoire de la décoration. Pourquoi? Il y a un problème. Dans les ministères israéliens, actuellement ça fait partie du ministère de la diaspora, il y a ce qu'on appelle le Merkaz Ahasbara, le centre d'explication. C'est-à-dire l'État d'Israël est censé expliquer sa position dans les médias internationaux. Il en est tout à fait incapable. La seule chose qui a été possible, c'est une chanteuse israélienne de haute influence, d'option gauchisante, qui a expliqué, nous sommes favorable aux Palestiniens, mais nous sommes contre le Hamas. Parce que le Hamas, c'est de la violence, mais les Palestiniens, ils ont des droits. Et d'ailleurs, l'État d'Israël est le seul État de la région dans laquelle les homosexuels ne sont pas persécutés. Alors vous voyez donc bien que la communauté internationale doit nous soutenir. Bon, on peut comprendre que les positions de gauche veulent également participer à l'effort d'explication de la politique israélienne, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça rate totalement le centre du problème. Le centre du problème, c'est que nous sommes identifiés par nos ennemis pour étant ce que nous sommes, c'est-à-dire les porteurs du message biblique d'Israël. Et que ce message biblique a une finalité et qu'il doit être transmis aux nations. Et donc c'était l'occasion justement, au moment où le schéma Israël était proclamé du haut d'un minaret d'une mosquée, eh bien que l'État d'Israël continue en disant nous n'avons pas simplement un combat négatif, c'est-à-dire pour notre survie, ce qui est légitime, mais nous avons également un message positif à transmettre et ce message c'est le schéma Israël. Bon, ça n'a pas été fait, il y a eu des réprimandes envers les soldats en question, c'est dommage. Mais il n'est jamais trop tard pour se remettre sur les rails et, en tout cas, avoir une position qui explique qu'Israël défend l'identité biblique et que cette identité biblique est nécessaire non pas seulement pour la survie d'Israël, mais pour la survie de l'humanité, pour son bien-être et pour lui accorder une signification à sa vie spirituelle. Et donc, vous voyez que ce genre de débat, effectivement, commence à être débattu justement dans la société israélienne. Donc, pour l'instant, je vous rappelle les résonances dont nous avons parlé jusqu'à présent, la résonance gogienne, Gog et Magog, la résonance Amalek, la résonance du conflit entre les monothéismes, et là, je voudrais aborder un point supplémentaire. Il y a dans la Torah, à nouveau, dans la Torah, dans le livre de Devarim, lorsqu'il est question de la Teshuvah d'Israël à la fin de l'histoire. Alors, rappelons tout d'abord la Teshuvah, le retour, on appelle le, bien sûr, les trois noms N-O-N et pas les trois noms N-O-M-S, évidemment. Ah oui, bien sûr, il y a effectivement les trois noms. Bonsoir, Ra. Je dispose de l'enregistrement du schéma à Jenin. Voulez-vous l'entendre en conclusion de votre cours? D'abord, je ne m'appelle pas Ra. Je pense être dans le bien et pas dans le mal. Non, 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 non. C'est très bien là pour votre proposition. Non, mais non, non. Non, non. J'ai beaucoup de choses à dire pour l'instant. Donc, non, c'est pas possible. Merci en tout cas. Je suppose qu'en fait, c'est simplement une erreur de l'Aklada. Vous avez oublié le V à la fin du mot rave. Bon, c'est pas grave. Je reviens dans le livre de Devarim. Lorsque la Torah nous parle du retour d'Israël, la Torah nous raconte à la fois qu'Israël reviendra à sa terre et aussi qu'Israël reviendra à Dieu. Il fera teshuva. Et effectivement, il y a deux sortes de teshuva au moins, la teshuva individuelle, la teshuva collective. La teshuva individuelle étant, par exemple, si je ne mangeais pas kasher, maintenant je mange kasher. Ça s'appelle une teshuva individuelle. Je ne faisais pas le Shabbat, maintenant je fais le Shabbat. Teshuva individuelle. Mais il y a également une teshuva au niveau national. La teshuva au niveau national, c'est le retour de l'exil. C'est-à-dire quand Israël sort de l'exil, c'est le péché collectif, l'exil, et la sortie de l'exil étant une forme de teshuva. On pourrait donc dire même que le plus grand mouvement de teshuva de l'histoire, c'est le sionisme politique. C'est-à-dire le fait que nous sommes revenus à notre terre, cela fait partie donc d'un mouvement de teshuva au niveau de l'histoire. Mais à la fin du texte de la Torah qui parle de la Teshuvah, dans la paracha de Vayeler, au chapitre 31 de Devarim, la Médaleph, il y a une description assez troublante. Les commentateurs, effectivement, se sont penchés là-dessus. De quoi s'agit-il? Alors, dans le chapitre de la Médaleph, au verset Tetzain, Dieu dit à Moshe, au moment où il doit mourir, il lui dit, sache que le peuple que tu as dirigé va se révolter contre moi. Bon. Ça, on peut dire, c'est quasiment une constante de l'histoire d'Israël. De temps en temps, le peuple d'Israël se révolte contre la Torah, contre Dieu. Et là, vous avez le verset Yud-Zayin, Vechara apivo bayom ahu va'azavtim, mon courroux s'exercera sur eux en ce jour, je les abandonnerai. Ve'istarti panai mehem ve'yale erol, je cacherai ma face d'eux, ils seront dévorés. Umtsa'u ra'ot rabot ve'tsarot, et ils retrouveront du mal abondant et des détresses. Ve'amar bayom ahu, il se dira en ce jour. Alors, al ki en Elohai bikirbi, metsauni haraot haele. C'est bien parce que mon Dieu ne réside pas en moi que ces malheurs m'ont trouvé. Bon, jusque-là, ça correspond tout à fait au schéma classique. Israël abandonne sa mission, le bon Dieu se met en colère, et comme il se met en colère, eh bien, Israël fait teshuva. Il se dit, tiens, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai oublié le Créateur que ça m'arrive. Alors, on s'attendrait à ce que le verset d'après, c'est, eh bien, puisque vous aurez fait Teshuvah, je reviendrai à vous. Eh bien, non. Le verset d'après, Ve'anochi, aster astir panai bayomahu. Quant à moi, doublement, je cacherai ma face en ce jour. Tiens donc. Alors qu'on a fait un effort de Teshuvah, Dieu cache sa face. Ça ne correspond pas à l'équation habituelle. Alors, ça a beaucoup préoccupé les commentateurs. Je voudrais vous citer ici le commentaire de Nachmanide, le Ramban. Voici ce qu'il nous dit. Quand il parle de la réaction des enfants d'Israël qui disent « C'est parce que mon Dieu ne réside pas en moi que j'ai trouvé ces malheurs », alors il dit « Enenu vidouille gamour ». Ce n'est pas un aveu complet. Kinyan vidvadu et avonam, comme on a dit par exemple, ils avoueront leur faute. Avaul hu hirhur vecharata. C'est simplement une pensée et un regret. Shiithartu al maalam viyakiru kiashemim hem. Ils regretteront leur trahison. Et ils reconnaîtront leur culpabilité. Ve'anochi aster astir panai pa'am acheret, et alors je cacherai à nouveau ma face, ki ba'avur she'iriru Yisrael belibam, ki chat'u l'Elohem, ve'al ki en Elohem bekirbam, metsaum ha'ot ha'ele, parce que Étant donné qu'Israël commencera à réfléchir au fait qu'il a péché envers Dieu, et donc il serait digne de la bonté divine d'aider Israël et de les sauver, puisqu'ils ont nié l'idolâtrie. Alors, je voudrais rappeler ici un point important. Le Talmud dit, celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. C'est quoi nier l'idolâtrie? Ça peut être tout à fait, par exemple, l'athéisme. C'est-à-dire un non-juif athéiste, athée, en fait, souvent l'athéisme est un refus de l'idolâtrie plus qu'une négation de l'existence de Dieu. Je ne sais pas si, je pense qu'une partie du public ici est au courant de ma rencontre avec le philosophe, peut-être juif, Michel Onfray, qui se prétend athée. Mais il se prétend athée, en vérité, il ne fait que nier le paganisme chrétien. Je pense qu'il est croyant sans vouloir vraiment l'avouer. Bon, je suppose que si c'est ce que je viens de vous dire lui arrive, il sera très heurté et donc je vous demande de ne pas lui transmettre ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ce que dit ici le Ramban, c'est qu'il y a une situation où effectivement le peuple d'Israël dans son ensemble abandonne le paganisme, mais n'a pas encore fait teshuva vers Dieu. Et c'est pour ça que ce que dit ici le Ramban, la chenama, qui al kol hara'a gedola she'asu liftoach ba'avodah zara yastir od panav, od panim mehem. Mais il dit donc que il va à nouveau cacher sa face. Lo kemaster panim arishon shistir pene rachama v'mitzavum non pas comme le premier effacement de sa face qui a amené beaucoup de malheur. Rak sheyu behaster pene hageula. Il ne fera que cacher le visage de la délivrance. Ve'yamdu behaftachat pene rachamav. Et alors, il dit, Hachi aussi fois la harata anizkeret vidui gamou. Jusqu'au fait qu'une fois qu'ils auront fait le regret, ils vont également faire le vidouille, l'aveu de la faute, ou tshuva shelema, une teshuva entière, que Moshe niskar lema la veshavta d'Hashem Elohecha, comme il est dit plus haut, tu reviendras à l'éternel ton Dieu. J'essaye d'analyser en termes rationnels ce que dit le Ramban, Nachmani. Il nous dit qu'en fait, viendra une époque où le peuple d'Israël, dans son ensemble, fera une teshuva sans le vidouille, sans l'aveu de la faute. Extrêmement bizarre. Vous savez que dans les règles de la teshuva, quand on veut revenir de son péché, alors on doit tout d'abord reconnaître sa faute, la regretter, et on doit également faire le vidouille. Le vidouille, ça veut dire avouer sa faute devant l'Éternel. Alors, pourquoi avouer sa faute devant l'Éternel? Il y a quelque chose d'absolument bizarre. Je viens dire au bon Dieu, tu sais, je voulais te dire que j'ai fait tel et tel péché. Ridicule. Est-ce que le Créateur ne le sait pas? Il sait très bien que j'ai péché. Pourquoi c'est à lui que je vais aller raconter ça? C'est simplement parce que, en vérité, le vidouille, contrairement à ce que l'on pense, est une récompense. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait Teshuvah, j'ai le droit à nouveau de rétablir mes relations directes envers Dieu, ce qui n'était pas possible quand j'étais dans le péché. Et là, Nachmani nous dit, viendra une époque où le peuple d'Israël fera teshuva à moitié. Il fera une demi-teshuva, une teshuva inachevée. Il va faire le processus de la teshuva sans faire le vidou. De quoi s'agit-il? Maintenant, nous comprenons, avec les événements que nous vivons depuis la fondation de l'État d'Israël, on comprend très bien. Il y a eu une teshuva, c'est-à-dire Israël est revenu à sa terre, mais refuse de reconnaître que cette teshuva est devant l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la société chiloni. Cette négation de la nature divine du retour d'Israël est commune à deux secteurs de la population en Israël, les chilonim et les datim. C'est-à-dire, les chilonim vous diront, c'est vrai, nous avons fait un processus de teshuva, nous sommes revenus à l'État d'Israël, nous sommes revenus à la terre d'Israël, ce n'est pas le bon Dieu qui l'a fait, c'est le palmar qui l'a fait. Et que disent les religieux? Les religieux disent, oui, bien sûr, il y a un retour, mais ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, ce n'est que le palmar qui l'a fait. C'est la position dite charédite, qui nie la nature de providentielle de l'État d'Israël et du retour. Alors on peut dire que les événements que nous connaissons actuellement, qui nous obligent à revenir à une identité, qui va nous obliger à rencontrer le Créateur, eh bien ces événements sont la dimension du vidouille justement, qu'il y ait un aveu, non seulement, qu'il y ait non seulement un retour à la normalité d'Israël, à son identité primordiale, l'identité hébraïque, mais également la reconnaissance du fait qu'à travers cet état, nous connaissons celui qui a créé le monde. D'ailleurs, comme disait Manitou, il y a un terme qu'on employait souvent avant, l'histoire sainte. L'histoire sainte, c'est un terme en vérité chrétien qui divise l'histoire en deux parties. Il y a une histoire sainte et une histoire profane. L'histoire sainte, c'est celle qui est racontée par la Bible. L'histoire profane, c'est ce qui vient après la Bible. Mais Manitou disait, ce que la Torah nous apprend, ce que la Bible nous apprend, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire qu'à travers les événements qui nous semblent tout à fait le fruit du hasard, de nature totalement intéressée, matérialiste ou tout autre, en fait, c'est le lieu de la manifestation du Créateur du monde. C'est-à-dire à travers notre histoire à nous, l'histoire de l'humanité avec celle d'Israël au milieu de cette histoire, comme disons comme une colonne vertébrale de cette histoire, c'est la scène de la révélation du Créateur. C'est comme ça qu'il agit en tant que Dieu de l'histoire et pas simplement en tant que président du monde. Et donc vous voyez que à travers tous ces événements que nous vivons, il y a énormément de résonances, énormément de narratifs qui s'expriment dans l'enchevêtrement de tous ces événements. Et comme disaient les Amoraïm dans l'époque de la Guémara, nous savons que ça va se passer, nous ne voulons pas y être quand ça se passera. Mais nous sommes plus grands que les sages de la Guémara, parce que eux ne vivent pas les événements que nous vivons, ils sont déjà partis de ce monde, et nous sommes en train d'accomplir l'histoire, et nous vivons les événements de la rédemption finale. Et donc, c'est à la fois un mérite, c'est à la fois un frissonnement qui nous traverse tous, surtout quand on connaît les difficultés que ça implique et les très lourds prix que nous devons payer pour faire avancer ces événements. Mais nous savons de manière générale que nous sommes dans une phase de notre histoire qui est une phase optimiste, comme nous l'avons déjà rappelé la semaine dernière.